La France connaît à partir d'aujourd'hui son premier pic de chaleur de l'année, 30 degrés en moyenne dans tout l'Hexagone, c'est ce que nous disait Laurent Cabrol, des pointes à 35 localement. L'été 2020 pourrait être encore plus chaud, plus sec qu'en 2019, la sécheresse encore plus critique. Pour en parler, Julien, votre invité, Emma Aziza, hydrologue et présidente de Mayan, centre de recherche sur l'adaptation face au changement climatique.
Bonjour Emma Aziza.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Certains départements sont depuis plusieurs semaines déjà en vigilance sécheresse et c'est loin d'être terminé. À quel point la situation est grave ?
Alors, la situation est grave par le fait que, en fait, d'année en année, on voit des scénarios nouveaux qui se mettent en œuvre sur nos territoires et à chaque fois avec des spécificités différentes. C'est-à-dire que on a vraiment eu des saisons où on avait des printemps assez pluvieux et puis d'un seul coup des canicules qui arrivent au début de l'été et qui font basculer les terres dans un état de sécheresse maximale. Aujourd'hui, on a vécu plusieurs phases. La première, ça a été vraiment la phase qui correspondait exactement à la date du confinement où on a démarré en fait la vidange des nappes souterraines en France avec la reprise de la végétation. Et donc, ça s'est associé à des vents très secs, à des températures supérieures à la normale, à un temps extrêmement beau durant toute cette phase justement de confinement qui a accéléré un premier état de sécheresse. Après, certaines zones ont reçu des pluies qui ont permis d'atténuer les effets. Cependant, on reste quand même face à une situation extrêmement fragile, surtout vu les prévisions saisonnières réalisées par Météo France qui prévoient un temps beaucoup plus sec et plus chaud qu'à la normale.
Est-ce qu'on est en train de payer les sécheresses des étés précédents ? Est-ce que les déficits s'accumulent ?
Oui, tout simplement parce que en fait, les territoires sont de plus en plus fragiles, les nappes sont plus fragiles, et donc une nappe qui subit un tarissement une année va être beaucoup plus sensible l'année suivante. Donc en fait, au fur et à mesure, elle a du mal à se recharger naturellement. Les éléments se remobilisent en profondeur, si vous voulez, qui ne permettent plus à nos masses d'eau en France d'avoir un fonctionnement normal. Alors, c'est pas grave quand ça dure un an ou deux ans. Là, le problème, c'est que depuis 2014 à 2017, ça a commencé à s'accélérer. Et de 2017 à aujourd'hui, on vit chaque année une année record différente, sur différentes zones. Ça touche jamais exactement la même partie de la France. Et pour autant, la France est soumise à des sécheresses extrêmes. Et donc, il faut vraiment prendre à corps, en fait, cette problématique, parce qu'elle est majeure, non seulement pour le milieu agricole, on en parle beaucoup, mais aussi pour le milieu sociétal, parce qu'il y a énormément de dommages, en fait, un peu partout en France.
Cette question des déficits qui s'accumulent, je la pose parce que j'imagine que certains de nos auditeurs se disent « Pourtant, il a plu abondamment cet hiver et de manière régulière. Pourquoi est-ce que nos nappes phréatiques sont-elles vides à ce point ?» On fait quoi ? Vous avez mentionné les agriculteurs. Ce sont les premières victimes, d'une certaine manière, de ces sécheresses à répétition. Comment doivent-ils s'adapter ?
Alors, effectivement, pour revenir déjà sur la phase de recharge, elle a effectivement été très bonne durant l'hiver, ce qui n'a pas été le cas de tous les hivers derniers. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, les choses changent. En fait, l'année dernière, à cette même période, c'était la Scandinavie d'ailleurs qui atteignait des températures records. Aujourd'hui, c'est la Sibérie. On voit bien que ces masses d'air chaud, froid, si vous voulez, évoluent. Pour autant, effectivement, malgré la bonne recharge des nappes, le fait qu'on ait eu des déficits de pluie qui ont duré extrêmement longtemps, plus de 40 jours sur certaines villes, ont fait plonger en fait le territoire dans cet état de sécheresse. Et puis, il y a cette fragilité du milieu. Il y a effectivement le fait que les sols ne sont plus les sols qu'on avait il y a 50 ans, il y a 100 ans, tout simplement parce que les agricultures intensives qui se mettent en œuvre, l'utilisation de pesticides va avoir des incidences probables sur la santé qui sont aujourd'hui valorisées, mais ont surtout des incidences sur l'état des sols. Donc on a des sols qui sont très fragiles, qui n'arrivent plus à absorber l'eau. Ce sont des premières couches de sol qui, dès qu'on a une précipitation intense, en fait, vont être comme lavées, vont partir, en fait, et donc vont amener notamment énormément de matière en suspension. Donc, ces pluies très fortes vont être en plus beaucoup plus corrosives, avec plus de dommages que cela n'aurait été le cas si jamais on avait des sols qui étaient très ancrés.
Nos agriculteurs, pour revenir à eux, ils doivent faire quoi ? Changer de mode de culture, faire des rétentions d'eau ? Expliquez-nous.
Il existe de nombreuses solutions qu'on peut voir aujourd'hui dans d'autres pays dans le monde. On voit très bien d'ailleurs, ne serait-ce qu'à côté de chez nous, en Espagne, qu'on a de l'agriculture intensive alors que les températures sont bien supérieures. Le principe du goutte-à-goutte qui peut être généralisé. Il existe en fait de nombreuses solutions. Il faut les appliquer au cas par cas. Ça, c'est pour les agriculteurs. Ensuite, vous avez La famille, à l'échelle individuelle, effectivement, existe encore des solutions pour réaliser des économies d'eau. Il faudrait qu'on puisse généraliser ces solutions, les faire connaître au grand public, voire même les offrir au grand public. Le fait, par exemple, d'utiliser un mousseur pour en fait réduire le débit de l'eau dans tous les robinets, ce serait un effet immédiat, colossal, à l'échelle de territoires entiers qui prélèveront moins d'eau au niveau de la nappe. Donc, en fait, une nappe qui aurait le temps de se régénérer et qui serait beaucoup moins sollicité.
Vous pensez quoi des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, travaux qui ont été rendus ce week-end ?
Alors, j'ai analysé dans le détail toutes les propositions qui sont faites. Je trouve qu'elles sont très innovantes, qui sont intéressantes parce qu'effectivement, aller chercher le citoyen pour l'impliquer pleinement sur ces problématiques. On voit bien d'ailleurs que ce sont des citoyens qui sont complètement transformés à partir de cette expérience. Et donc, il y a vraiment une démarche qui est extrêmement intéressante.
Mais il n'y a pas une seule fois le mot sécheresse. J'ai regardé, il n'y a pas une seule fois le mot sécheresse.
Exactement. Et j'allais en venir à ça. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui a été fait est intéressant, mais dans une visée où on cherche à réduire les gaz à effet de serre. L'objectif, il est climatique sur un scénario, effectivement, qui va permettre, normalement, si on met toutes ces solutions en œuvre et qu'on les applique dès demain, d'effectivement d'infléchir, en fait, le scénario futur. Le problème, c'est que tous les gaz à effet de serre qui ont déjà été émis depuis 30 ans, ils sont déjà dans l'atmosphère. Ils réagissent déjà aujourd'hui, et donc le réchauffement, on le vit aujourd'hui, et de manière de plus en plus accrue, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'avec les 38 degrés jusqu'à 45 degrés, on est actuellement au niveau du cercle polaire arctique et en Sibérie, on voit très bien qu'on a une vraie problématique sur le permafrost qui fond, avec derrière en plus la libération de bactéries anciennes, de virus anciens. On sort quand même de cette crise Covid où on sait à quel point on peut encore être extrêmement fragile et nos territoires et nos sociétés sont absolument pas encore adaptées à vivre ces variations. Donc, en fait, il y a de vraies questions à se poser. Elles sont très pragmatiques. Et donc, peut-être, il faudrait organiser une future convention citoyenne sur la question de l'adaptation.
Un Grenelle de la sécheresse.
Un Grenelle de la sécheresse, de l'inondation, des canicules. On a des bâtiments qui sont absolument pas adaptés aujourd'hui en France. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait reporté en fait le
brevet des collèges.
Parce que les bâtiments n'étaient pas adaptés. Aujourd'hui, on parle des EHPAD, c'est absolument catastrophique. Donc vous voyez, en fait, il existe une multitude de choses à mettre en œuvre, et ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. On n'est pas sur l'atténuation des gaz à effet de serre, et ça, c'est une urgence maintenant pour l'humain d'aujourd'hui.
Merci Emma Aziza d'avoir été en ligne avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur ces sécheresses à répétition. Je rappelle que vous êtes hydrologue et présidente de Mayan, un centre de recherche sur l'adaptation face au changement climatique. Bonne journée et à très bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup.